Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Je commanderai aux îles d'exister. L'insularité et la poésie, des maps-mondes avec des îles immenses. Laisser son nom d'homme de paix et de tendresse sur une île. La douce géographie, les îles cicatrices, le pourtour de la mer, cet espace de permission qui est la mer. Bref, le langage de passion qui monte des îles, c'était le 22 février 1975 sur France Culture.
D'hier et d'aujourd'hui sur les ondes. Une production mensuelle de Georges Godbert. Ce soir, la poésie de l'insulaire, une émission écrite par Édouard Monique, avec le concours de Georges Aminel, Julien Berthaud, Maria Laborite, Gilbert Villon et Édouard Monique qui vous présente maintenant cette émission.
Quelque part dans les mers, de petits morceaux de monde où des hommes naissent, vivent et meurent. Dans le vocabulaire géographique, ils sont classés sous la rubrique « îles », I accent circonflexe, L-E-S. Aujourd'hui, nous n'en parlerons qu'au singulier, parce que cet espace que l'océan concède à la Terre est, pour des millions d'hommes, le pays natal. Nous dirons donc « île » pour dire « lieu de naissance, terre originelle ». De ce lieu, beaucoup parlent, crient, hurlent, aboient ou murmurent leur présence au monde. Dans le vocabulaire de tous les jours, on les appelle poètes. Ils sont la parole même de leur territoire. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Ils viennent de Cuba, de la Guadeloupe, de Haïti, de Madagascar, de la Martinique et de l'île Maurice. Ce sont quelques voix parmi des milliers d'autres, quelques îles parmi toutes celles qu'il faudrait pouvoir nommer jusqu'à en perdre haleine. L'insularité est une condition humaine. En elle s'articulent le lieu, l'homme et le langage. Et voici évoqués les trois pôles du poème qu'elle met au monde et qui la contient tout à la fois. L'insularité est un grand livre d'histoire vraie, aux chapitres parfois doux, parfois cruels, aux pages d'incendie et de pluie. Un livre où l'aventure le plus souvent s'appelle « Survivre ». L'insularité commence par un grand désir de communion, une volonté de naître, enfin. L'île, ce point de départ, ce port de malédiction, et dans la bouche de Césaire, ce rapt, ce sac, ce vrac, cette terre, le vin mal déposé de la mer. Un jour, il faudra calculer la somme de sang versé pour finir une fois pour toutes avec le malheur, pour seulement peser du poids d'être un homme au monde. Un jour, mais avant, la mémoire doit être vidée de ce que fut l'histoire. L'île et l'histoire. Deux constantes de l'homme, née en terre étroite, gardée par la mer, mais qui fut aussi rade d'accostage pour d'autres hommes venus de loin pour voir, pour avoir.
Ma terre sortie du feu, prisonnière d'un anneau d'océan, la face dans l'air noyé des commencements. Ma terre est fille du feu, fille de l'eau, mais les vents aux mains sèches ont modelé son visage, creusé de longs bras drainant les miroirs ternes, et le sec agrandi bosselant sa face entière. Ainsi, sortie ma terre des tourmentes du premier jour, marquée sans douceur. par tous les éléments. Et puis, au troisième jour, ma terre s'est mise debout. Couronnée des feuilles de la vie, elle chanta la vie. Devenue un jardin, elle chanta son jardin. Elle chanta au soleil caché dans les eaux, à l'œil de brume du soleil. Elle chanta la venue du soleil. Et ce fut le sixième jour, les pas tâtonnant sur le sec de l'homme sorti de l'eau, les mains naïves et appliquées de l'homme sec, portant la pierre, l'arc, le feu, la barque, la semence, portant sous son front les germes, les étoiles, les marteaux de l'idée. Ainsi devint mon Amérique, ce champ semé de troncs noirs qui étaient des hommes, et de visages noirs, étranges fleurs coupées de blanc par le chant du désespoir. Mais l'histoire n'est point finie. On n'en finit pas de récolter l'histoire quand on a semé, comme on a semé dans ma terre, l'histoire. On n'en finit pas de récolter quand on a planté, comme on a planté, ma terre.
Faut-il que l'insulaire, qu'il soit de l'Atlantique ou du Pacifique, de la mer des Indes ou de la mer des Caraïbes, comme ici Roger d'Orsainville nous écrivant de Haïti, faut-il qu'il ressasse à longueur de vie les étapes d'un passé? Pourquoi pas, puisque ce n'est pas en fin de compte pour seulement pleurer, mais pour bondir dans un devenir où respirer délivre d'autres champs, briser des amarres vers des archipels qui pourraient devenir des continents. Car le lieu de l'île est surtout solitude. Cette impression d'être coupé de l'immense, de ne participer qu'à une fraction de la vie universelle. L'homme ici joue à un jeu perpétuel de miroir pour tromper sa singularité. Il s'invente des voyages, agrandit ses yeux pour contenir tous les paysages inconnus. Il ne lui suffit pas de fréquenter les constellations d'un seul regard. Il veut toucher les autres. Vivre, c'est aussi parler à haute voix et être entendu. Recevoir des réponses. Vivre est le contraire du monologue. Les vents de la mer n'apportent jamais de réponse, ils ne transportent que l'écho. Témoin, cette image du vitrier nègre que le regretté poète malgache Jean-Joseph Rabert-Rivel, suicidé à 30 ans, nous confie en connaissance de cause.
Le vitrier nègre dont nul n'a jamais vu les prunelles sans nombre, et jusqu'aux épaules de qui personne ne s'est encore haussé. Cet esclave, tout paré de perles de verroterie, qui est robuste comme Atlas, et qui porte les sept ciels sur sa tête, on dirait que le fleuve multiple des nuages va l'emporter. Le fleuve où son pagne est déjà mouillé. Mille et mille morceaux de vitre tombent de ses mains et rebondissent vers son front meurtri par les montagnes. Où naissent les vents? Et tu assistes à son supplice quotidien et à son labeur sans fin. Tu assistes à son agonie de foudroyer dès que retentissent aux murailles de l'Est les conques marines. Mais tu n'éprouves plus de pitié pour lui. Il ne te souvient même plus qu'il recommence à souffrir chaque fois que chavire le soleil.
Souvent, à bout de violence, le poète insulaire empoigne la fable. Et la force a une certaine réalité, je m'explique. ayant trop longtemps rêvé en vain, il décide de tout effacer d'un grand coup de bonne humeur. Il est alors assez puissant pour bouleverser la géographie, pour violer la bas-monde et réinscrire une cartographie à sa mesure de fin de liberté et de bonheur. En quelque sorte, il rend possible la vérification de la légende qui sommeille au fond de lui depuis la fondation de l'île. De laisser pour compte, il devient tout puissant, contrarie les latitudes et les longitudes, commande aux îles d'être continents et aux continents de se serrer pour enfin faire place à ceux que le destin semblait confiner à l'oubli. Souvent, à bout de violence, le poète donne soudain vie à l'impossible. À cet impossible qui n'est pas domaine de lui seul, mais domaine également de tous ceux qui, comme lui, se croient condamnés, sinon damnés, d'être nés insulaires. Puisqu'il est la voix du territoire, il entonne un chant qui est le chant de tous, et par ce chant, les fait participer à la vie universelle. Jeu de solitude, dira-t-on. Peut-être. Mais un jeu où les perdants de toujours, soudain, sont en veine, où ils n'arrachent rien à personne, rien, sinon cette part qu'ils n'acceptent plus, qu'elle leur soit toujours soustraite, toujours refusée. Souvent, le poète, à bout de violence, se fait géolibertin, comme René de Pestre de Haïti dans cet Alléluia pour une femme jardin.
Je fis un monde savoureusement horizontal, où il n'était jamais question de guerre froide ni de rideau de fer, ni d'impérialisme, ni de pacte atlantique, ni d'explosion nucléaire, ni de Ku Klux Klan, ni d'expédition coloniale, ni de croix gammée, ni d'étoile jaune, ni d'apartheid, ni de panaméricanisme. L'une des plus agréables surprises que me procurait la lecture de ma map-monde, c'était que l'ordre des puissances mondiales n'avait absolument rien à voir avec l'univers de l'après-guerre. Les États-Unis, par exemple, occupaient peu d'espace au nord du continent américain. Ils faisaient figure de petits pays. Tandis que les îles de la mer des Caraïbes, Haïti, Cuba, la Martinique, etc., couvraient des vastes territoires. Le Chili était aussi immense que le Brésil. En Europe, la France, la Hongrie, la Suède, la Pologne, l'Italie s'étendaient sur des superficies surprenantes. En Afrique, le Dahomey, l'Égypte, le Kenya, Zanzibar avaient des frontières opulente. En Asie, le Japon était plus étendu que l'Australie. Bali était bien plus grand que Sumatra et Java réunis. Tahiti était à lui seul un septième continent. La géographie de l'URSS était également bouleversée. L'ordre des républiques soviétiques avait subi des changements profonds. La Sibérie et la Russie d'Europe réunies étaient plus petites que la Géorgie. En Chine, l'échelle des provinces changea aussi, profondément. La même observation était vraie pour l'Inde et pour l'Espagne. Le Vietnam dépassait de loin les limites des USA de nos atlas courants. Une révolution du même ordre était visible sur le terrain des matières premières agricoles et industrielles. On produisait des épices en Suède. Clou de girofle, muscade, gingembre, etc. On trouvait des mines de diamants en Sicile, à Trinidad, en Écosse, etc. On pêchait des perles tout au long des côtes de la terre, perles noires, perles blanches, perles jaunes, perles chabines, perles sacatra, perles carteronnes, perles métisses, etc. Les perles métissées étaient très recherchées pour le fait que dans leur lit, le soleil ne se couchait jamais. On chercherait en vain sur ma carte des pays producteurs de matières premières stratégiques. Le géolibertinage me donnait une vision voluptueusement pacifique du siècle. Le seul détail qui rappelait peut-être la guerre était la rigueur de carte d'état-major qu'avait mon atlas. Ici commencent les lionnes. C'est ce qu'on lisait aux frontières pleines d'incertitudes des îles Vierges, de l'île Sainte-Hélène, de la cité du Vatican, du Népal, de la Nouvelle-Zélande, de la Belgique, de l'île Marie-Galante, de certaines principautés de la péninsule arabique, de Monaco, du Turkestan chinois, de la Laponie, de l'État de l'Oklahoma, du Tanganyika, de l'Irak, etc. Toutefois, à l'égard de ces terre incognitées, je me sentais au corps des dispositions réunies d'Hérodote, de Posidonius, Strabon, Marco Polo, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Américo Vespucci, Cook, Savorgnan de Brazza, Pizarre, Nansen, Magellan. Je me disais avec orgueil que si je parvenais à découvrir une de ces terres, on verrait mon nom luire à côté d'un détroit, d'un golfe, d'un circuit de rivage, d'un pays qui sait avec beaucoup de veine. Je laisserai un nom d'homme de paix et de tendresse à quelque Amérique de toute beauté. J'étais citoyen d'une planète qui, dans sa rotation autour du soleil, accordait le sang de mes 25 ans à la plus folle et à la plus douce des géographies.
Cette folle et douce géographie, la plus folle et la plus douce, pour reprendre les mots exacts de René de Pestre, est au fond une porte de sortie, ouverte sur un espace de permission qui est la mer. Partir. Voilà le mot de passe. Partir pour échapper à l'exiguïté de la terre. Emprunter la mer comme un chemin vers partout. Ce partout présent en chaque insulaire, facteur de sa poursuite de vivre. Pour le vérifier, il suffit de la liste de tous ces hommes en allée, avec leurs rêves pour boussole, leur convoitise pour passeport. Une convoitise qui n'est pas péché, mais ruse de guerre, pour gagner, pour vaincre en d'autres lieux, peu importe lesquels, pourvu qu'ils soient autres que cette terre ombilicale. Gagner, vaincre, au prix d'une errance plus longue que perpétuité, plus définitive que peine capitale. 100 poètes, 1000 poètes sont partis, et parmi eux, Loïs Masson, pour se délivrer du mal sur un yacht baptisé Despair. Loïs Masson, né à l'île Maurice du Soleil, aujourd'hui couché dans la pluie sale et amère d'un cimetière de banlieue, loin, trop loin de sa plage natale.
Mon Dieu, nous avons parcouru des océans blafards de longs mois, nord et sud. Et l'on avait gravé ton nom en lettres hautes de 3 pieds sur le mât d'Artimon pour leurrer les courants. Satan, le mégissier, fit pour les panneaux de la cale de petites mauves de cuir avec un cœur d'épingle. L'on arrima 200 barils de vin et 100 d'absinthe pour les cyclones assoiffés compagnons et du gin doux, pour les petits alizés frêles comme des femmes, qui viennent prendre l'écart d'étain des mains des matelots et puis s'essuient la bouche au plumage d'un pétrel. Le phoque était les mains jointes de la Vierge Marie. On cadenassa les sabords contre la houle, on but. Le capitaine fit sa prière et l'on appareilla dans la marée des mouchoirs. La croix du sud entre deux eaux éclatait en blasphème. Le premier soir, l'on talonna sur une lune pourrie. Route, route, plus loin, que bête voiles et haubans. Le mousse apportait des liqueurs au fond de coupes grêles et l'on buvait le torse haut, la tête renversée vers la polaire en la nommant de petits noms de femmes. Les ailes lourdes et les mouettes s'abattaient sur l'avant par grandes plaques, comme de la graine de nuages. Route, criait-on. Place, place, crève phoque et clin phoque. La mer jouait des fesses sous l'œil en feu des écubiers, des algues montaient avec de longs déroulements de hanches des abîmes, et l'on se sentait soudain tous perdus d'amour sur une quille molle comme un désir. L'homme de vigie d'une voix enrouée cria « Terre !» On vit une terre basse, avec un poil de brouillard coupé ras sur la falaise, et un fleuve qui lançait ses galets dans la mer. Ohé, mes matelots! Que débarquent ceux-là qui sentent le besoin de pardon comme une petite colombe chaude posée sur le cœur. Les premiers qui descendirent dans l'île, leurs péchés leur furent remis sans qu'il en restât aucune trace. Le premier eut un anneau de plomb, le second une frégate aux larges ailes, le troisième eut deux varechs en croix, et le quatrième une écume qui fleurit un phosphore bleu avec une peau très fine, comme un doigt de Dieu. Ils descendirent trois par trois, les 30 de l'équipage, et le capitaine à la barbe fit le 31. Reste! Reste, dit-il, ramène, frère, mon trois-mâts à Auckland, où il mouille sur le troisième reflet de la lune à gauche de la jetée. Haut au nord, car ouest! Garçon, tes péchés mortels te serviront bien de l'est! Je m'en suis allé sur un jusant doux comme une main de fiancé, Seigneur. Seigneur. Et trois fois j'ai pleuré, trois fois j'ai fait sonner la cloche, et trois fois j'ai prié. Oh, que dansent les laidrons au son des villanelles à Auckland! Par la jetée, je ne peux pas arriver. La nuit me roule sur tribord et le flot s'est levé. Ma mère vieille est sur le quai, elle agite un mouchoir. Et ma femme dans l'embrun a ses larmes en collier. Elle prie pour que ta pitié, enfin, mon Dieu, s'asseye au bossoir et file une ancre dans l'océan calmé pour que je puisse aborder à Auckland sous la jetée. Et me voici. Me voici le dernier de l'équipage sur mon pont mangé de vent, avec ma croix d'éclair où tu ne viens pas te clouer.
Langage de passion que celui qui monte des îles. Langage d'un homme condamné comme une flamme au cœur de son lopin de terre, ainsi que les cris d'avertige de Haïti. Tellement flamme, ajouterons-nous, que de cette même île, un autre lui répond pour dire que cette passion n'est jamais nulle, au contraire. Au contraire, dit Roland Morisseau, nous ouvrons la porte sur les ruines du temps, nous avons crevé l'œil à la nuit, chassé l'asphyxie de l'espace. Les vents contraires ont tourné. Nous sommes toujours là, issus de la matrice de la terre, à nourrir la terre. Nourrir la terre. Paradoxe de la pauvreté enrichissant le monde. Et pourquoi? Peut-être parce que l'île est lieu de rencontre. Ici, tous les continents sont venus s'affronter. Les uns sont morts, les autres sont restés. Ici, l'Afrique et l'Inde ont été importés, l'esclave et le coolie. Les uns sont morts, les autres ont survécu aux marées acides, à la longue nuit. Les vivants ont fondé une race nouvelle, les métis. De Cuba, une voix forte nous raconte cette ballade des deux aïeux. Nicolas Guillen.
Ombre que je suis seule à voir, mes deux aïeux me font escorte. Une lance à la pointe d'os, un tambour de cuir et de bois, mon aïeul noir. Un gorgerin sur un cou large, une grise armure guerrière, mon aïeul blanc. L'Afrique des forêts humides et des gongos épais et sourds. Je me meurs, dit mon aïeul noir. Une eau trouble de caïmans, de verts matins de cocotiers. Je suis là, dit mon aïeul blanc. Ô voile qu'enfle un vent amer, au galion qui brûle sous l'or, je me meurs, dit mon aïeul noir. Aux rives, au cou virginal, que trompent les colifichets, je suis là, dit mon aïeul blanc. Ombre que je suis seul à voir, mes deux aïeux me font escorte. Don Federico m'interpelle, et Taita Facundo se tait. Tous les deux rêvent dans la nuit et marchent, marchent. Je les rassemble. Federico, Facundo. Tous les deux s'embrassent. Tous les deux soupirent. Tous deux redressent leurs deux grosses têtes. Tous les deux de la même taille, sous les hautes constellations. Tous les deux de la même taille. Angoisse noire, angoisse blanche. Tous les deux de la même taille. Criant, rêvant, pleurant, chantant. Rêvant, pleurant, chantant. Pleurant, chantant, chantant.
À cette lignée, répond cet autre, avoué de la très lointaine île Maurice par Emmanuel Juste, poète jamais édité jusqu'à ce jour, parce que l'île est aux confins du monde, et qu'un poète de plus ou de moins ne saurait affecter l'indifférence des métropoles. Il est vrai que Juste a déjà tout pardonné quand il dit « On ne peut mettre un tout forêt dans un brin d'herbe. Il y a des préhistoires qui ne pardonnent pas. Mais l'homme est toujours à recommencer entre la forêt et la machine. »
Alors, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, frères au sang dur, pur et sûr. Ayez pitié de nous, au fur et à mesure que les temps vous reviennent, que les tombes vous reviennent. Ayez pitié du sable et de nos pas. Nous avons perdu vos traces. Ayez pitié de nos fables. Vous avez perdu nos mains. Ayez pitié de nous, au fur et à mesure que le silence se fait en vous, que l'homme se fait chez les glaciers, les fous et les fossiles. Le métis est Moyen-Âge. Dans la mémoire du monde, il a la peau dure. Il n'a ni talons, ni dos. Mais dans son sang aux mille faces, un fruit martèle rouge, un panier de soleil. Sa naissance en préhistoire, cherchant racines et cherchant ciel, se fit étoile, se fit pardon sur page blanche d'un miroir, se définit en arc-en-ciel. Je dis des sottises. Peut-être. Je n'ai pas le choix. Il arrive des fois que les murs m'improvisent. Je dis donc non aux murs. Comme je dis non à la contre-histoire. Comme je dis non aux rivières qui ne respectent pas le temps. Mais à la vie. À la vie qui pourtant permet les volcans et deniers de Judas. À cette vie qui ne connaît qu'un seul ailleurs, l'homme. Je dis oui.
Oui à la vie, dit Juste. Proclamation tout à fait ordinaire, pourrait-on penser. Il n'en est rien. Tout le monde ne demande pas pitié pour le sable. Les îles lointaines ont forgé cette prière en défi au temps des curieux, ceux-là qui viennent nous regarder vivre, comme l'on va au cirque voir les animaux domptés et parfois savants. C'est qu'il faut que toute la lumière soit faite sur le destin à la fois beau et terrible des gens des îles. Pour cela, il faut entendre ce qu'ils disent au lieu d'écouter ce qu'on dit d'eux. Fermons les dépliants, déchirons les affiches aux invites outrancières et lisons ces mots d'Anthony Phelps, le Haïtien. « Je suis un homme hanté sur l'arbre de l'amour, entre l'écorce et l'aubier, avec pouvoir en moi de délier, de délivrer, et je grandis à chaque couche annuelle de bois vivant. » C'est cet essentiel que j'ai personnellement voulu proposer dans mon livre « Fusillez-moi ».
mille cicatrices, je vous demande de porter la croix du Sud. La seule manière de vous hisser jusqu'à nous, jusqu'à l'insulaire solitude, le dénuement. Cette présence de n'être ni du monde, ni du demi-monde, ni du tiers-monde. Mon cercueil est petit, trop petit pour l'absoute. Jouons à Golgotha. Soyez Simon de Cyrène. Quel temps, dites. Quel temps met la mort à décider la mort. Quel temps met la vie à suicider la vie. Et moi, derrière la porte de l'Occident qui me prête ses livres, j'entonne un rire cyclone à me compter, compter ma peau, compter mon sang. Quel temps met l'été à suborner la neige. Mais soudain, ce poème me menace de mort. Il m'accuse de mer comme l'on accuse un faussaire. Mon pays, lui, devient monnaie rouillée et qui n'aurait cours que dans des jeux pour rire ou pour passer l'hiver que je ne connaissais pas. J'ai beau plaider que l'or mort n'existe pas, le vocabulaire me répond que tout peut mourir puisque je suis périssable. Qui m'a mis l'idée de Dieu dans la tête ? Quel incendie me ranimera au bord de la terre ? À quelle femme vivante donner le nom de mon mensonge, exil, pour sauver les bêtes de mon enfance ? Et nous travaillons à une saison qui sera seule supportable, la saison des rencontres. Langage de poète, dira-t-on, mais oui. En lui seul s'inscrit le rite de durée. C'est que nous avons vocation de mère. Elle nous inculque à chaque marée des leçons qui sont des chants contre la démission.
Poésie pour accompagner la marche d'une récitation en l'honneur de la mère. Poésie pour assister le chant d'une marche au pourtour de la mer. Comme l'entreprise du tour d'autel et la gravitation du cœur au circuit de la strophe. Et c'est un chant de mer comme il n'en fut jamais chanté, et c'est la mer en nous qui le chantera. La mer en nous portée jusqu'à la satiété du souffle et la péroraison du souffle. La mer en nous portant son bruit soyeux du large et toute sa grande fraîcheur d'aubaine par le monde. Poésie pour apaiser la fièvre d'une veille au périple de mer. Poésie pour mieux vivre notre veille aux délices de mer. Et c'est un songe en mer, comme il n'en fut jamais songé, et c'est la mer en nous qui le songera. La mer en nous tissée, jusqu'à ses ronceraies d'abîme, la mer en nous tissant ses grandes heures de lumière et ses grandes pistes de ténèbres. Toute licence, toute naissance et toute récipiscence, la mer. La mer a son afflux de mer.
Ce poème de Saint John Perse aurait pu suffire, être le dernier que j'avais à citer. Mais il y a Césaire, celui qui dit remonter hanter la sinistre épaisseur des choses, avec son soleil coucoupé, et pour chacun de nous, une page de son cahier d'un retour au pays natal. Livre de chair insulaire et de peau marine, s'il en fut. Avec lui, nous sommes des êtres à corps perdu, et nous entrons dans l'accomplissement, oui, déjà, de cette saison où nous faisons tous connaissance. Tous. Ceux des îles et ceux d'ailleurs. Comme pour une fête. Celle de l'homme, tout simplement.
Moi qui Krakatoa! Moi qui fous mieux que Mousson, moi qui poitrine ouverte, moi qui Lailap, moi qui belle mieux que Cloaque, moi qui hors de gamme, moi qui zambèse, ou frénétique, ou rombe, ou cannibale, je voudrais être de plus en plus humble et plus bas, toujours plus grave, sans vertige ni vestige, jusqu'à me perdre tombé dans la vivante semoule d'une terre bien ouverte. Dors, une belle brume au lieu d'atmosphère serait point sale. Chaque goutte d'eau y faisant un soleil, dont le nom, le même pour toute chose, serait rencontre bien totale. Chose, écartez-vous, faites place entre vous, place à mon repos qui porte en vague ma terrible crête de racines en creuse. Qui cherche tout se prendre. Chose, je sonde. Moi, le portefeuille, je suis porte-racine. Et je pèse, et je force, et j'arcane, j'onfale. Ah, qui vers les harpons me ramène. Je suis très faible, je siffle. Oui, je siffle des choses très anciennes de serpents, de choses caverneuses. Je orpampella et contre mon museau instable et frais, pose contre ma face érodée ta froide face de rire défait. Le vent, hélas, je l'entendrai encore. Nègre, nègre, nègre. Depuis le fond du ciel immémorial, un peu moins fort qu'aujourd'hui, mais trop fort cependant. Et ce fou hurlement de chiens et de chevaux qu'il pousse à notre poursuite toujours marronne. Mais, à mon tour, dans l'air, je me lèverai un cri et si violent que tout entier j'éclabousserai le ciel. Et par mes branches déchiquetées, et par le jet insolent de mon fût blessé et solennel, je commanderai aux îles d'exister.
Et d'aujourd'hui sur les ondes. Une production mensuelle de Georges Godbert. Ce soir, La poésie de l'insulaire, une émission écrite et présentée par Édouard Monique. Avec le concours de Georges Aminel, Julien Berthaud, Maria Laborite, Gilbert Villon. Chef opérateur du son, Jean-Jus Forgue. Collaboration technique, Chantal Gâteau. Assistante, Marie-France Alléon. Réalisation, Georges Godbert.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 février 1975. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.